Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle.
Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Nos visiteurs s'acheminent vers un appartement habité. Ils vont pendant quelques minutes en apprécier la chaude intimité.
Ici, salut, vous êtes en direct de Radio Campus sur l'émission Vacarme en Réunion. Aujourd'hui, vous êtes avec Domino, moi-même et Boutata.
Voilà, avec le micro, c'est mieux.
Voilà, salut, c'est Domino. Je me suis trompé, c'est la première heure de l'émission, ça sera pas la dernière. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler du réaménagement des Grésilles et des HLM. Parce c'est que ça. Avec Boutata, on a traîner le guêtre pendant quelques semaines, voire quelques mois.
C'est ça, ça fait 3 mois qu'on s'est baladé à travers le quartier des Grésilles pour réaliser cette émission. On a traîné au pied des petits bouis-bouis dans le quartier des Grésilles, notamment vers l'ancienne place du marché. On allait rencontrer différentes personnes, une documentariste notamment, une vidéaste. On est aussi allé rencontrer des jeunes, on a discuté avec les gens qui habitaient dans le coin. Tout ça pour vous dire que cette émission est un prélude à d'autres émissions qui devraient suivre, notamment sur le réaménagement urbain et les questions des bailleurs sociaux dans les quartiers populaires. Domino, du coup, on en parlait pas mal. On veut pas tomber dans une forme d'exotisme. Donc, du coup, à travers cette émission, on est allé interviewer quelqu'un qui fait partie d'un CA, d'un bailleur social. On est aussi allé,
On a rencontré plusieurs personnes qui se référaient aux situations qui sont là-bas, et on n'a pas réussi à amasser des tonnes de matériaux sur paroles d'habitants exactement, mais on avait quand même l'impression d'avoir suffisamment de matériaux pour pouvoir dire quelque chose et participer un peu à...
pouvoir faire cette émission, quoi.
Ouais.
Et quand tu parlais justement de ce manque de matériaux qu'on n'a pas pu récupérer, c'est notamment qu'on s'est toujours baladé avec un petit enregistreur et qu'on, auprès des gens qu'on allait rencontrer, notamment sur l'ancienne place du marché des Grésilles, on sentait qu'il y avait une certaine méfiance, notamment liée au fait qu'on, comme on était, nos têtes étaient nouvelles dans le quartier, on nous prenait un peu pour de la flicaille au début. Donc il fallait un peu montrer que si on était là, c'était aussi parce que ça nous intéressait, et que parfois on sentait, quand je parlais d'exotisme, que les habitants, ils se demandaient mais qu'est-ce que foutent ces gars-là et pourquoi ils s'intéressent à nos problématiques quotidiennes, quoi.
Ouais, moi je me rappelle encore de la première fois où on est allé se boire un petit thé à la menthe dans le boui-boui qui est sur l'ancienne place du marché. La première personne qui est venue nous aborder directement, elle a commencé par nous asseoir et nous payer un thé. Et après elle nous a raconté toute sa vie d'une manière assez assez vibrante, quoi. Et en même temps, il y avait toujours des petites pointes sur vous êtes des flics, etc.
C'est
quoi.
Ça, on s'est pas mal fait taquiner, ouais.
Ouais, voilà. Et du coup, il y a toujours eu un peu ce double aspect-là, à la fois de curiosité et d'ouverture, où c'était hyper facile de parler avec les gens, et où en même temps, il y avait un peu cette méfiance. Les deux aspects, en fait, pour moi, ils vont ensemble, dans le sens où ça marque l'identité d'un quartier. C'est-à-dire que malgré le fait que peut-être les Grésilles, la vivacité est peut-être pas la même qu'il y a quelques années. En tout cas, quand on arrive là-bas, on est clairement dans un territoire où il y a des formes de communauté, peut-être pas une communauté, mais au moins de la communauté, de manière beaucoup plus importante que dans d'autres endroits de la ville. Et que c'est ça qui fait qu'on a un peu ce sentiment d'étrangeté, et que c'est à partir de ça que nous, on va essayer de travailler et de parler des Grésilles, quoi. Et en aucune manière, évidemment, comme si on parlait à la place des habitants, quoi.
Ouais, tout à fait. Justement, quand tu dis parler à la place des habitants, c'est intéressant. parce que la plupart des gens qu'on a rencontrés, pour beaucoup, sont nés, ont grandi et travaillent ou ne travaillent pas, ou ont encore leur vie et leur famille au Grésy. Donc on avait tout de suite aussi dans les discussions ce lien ultra viscéral où les gens ont vu, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui aussi, c'est sur cette histoire des Grésy qui a été un quartier qui a été créé dans les années 50, sur cet aspect-là où il y a des gens, et que, ça c'est un gars qui nous l'avait dit aussi, que les vieux, maintenant les vieux qui sont là, ils ont construit ce quartier, puis maintenant ils ont été amenés à le détruire. Et du coup, voilà, il y a toutes ces phases de bétonisation qui a eu lieu. Et c'est ce témoignage-là qu'on souhaite être au plus proche, malgré qu'on n'ait pas eu les enregistrements.
Voilà, du coup, on pourrait se poser la question tout de même de pourquoi, bien qu'on ait passé des mois à aller là-bas et qu'on conserve ce sentiment d'extériorité, pourquoi est-ce qu'on s'entête un peu à parler des Grésy? Pour moi, la raison principale, c'est que bon, les habitués de Vacarme-en-Réunion seront pas étonnés, mais voilà, pour moi, au Grésy ou à d'autres endroits dont on parle habituellement dans cette émission, c'est un peu le même pouvoir réaménageur, voilà, les politiciens, etc., qui s'appliquent. Et du coup, ça nous paraît évident que creuser ce qui se passe au Grésy, ça donne des billes aussi pour plein d'autres situations, ça trace des ponts et pourquoi pas des alliances, ce qui serait la plus belle chose qu'on pourrait espérer pour cette émission, voilà.
Avec des rencontres de gens et de collectifs. Et justement, quand tu parlais de problématiques dans le quartier, avant de balancer le premier morceau de l'émission, je vais faire une petite lecture d'une propagande municipale doublée d'une volonté publicitaire auprès du bailleur social du coin. Donc on citera qui est Dijon Habitat. Donc c'est dans le dernier Dijon Mag. On l'a bien rigolé quand on l'a lu et qu'on l'a eu entre les mains. Donc citation, alors c'est l'ouverture, Grésy, la métamorphose. Il suffit de se promener parmi les étals du marché des Grésy pour saisir à quel point le quartier s'est transformé en quelques années et combien il est devenu un lieu de vie très agréable, aéré, chaleureux, ouvert sur la ville, plus vivant que jamais, attirant de nouveaux habitants, conscient de son potentiel, il a connu une profonde métamorphose. Et avec mon pote Domino, nous on se promet là pendant une heure de se faire la phase B de ce foutu article qui ne vaut rien.
C'est clair. Et du coup, nous, on a un peu l'impression d'avoir vécu l'exact envers du décor de ce qui est présenté dans ce petit journal de la mairie. Et du coup, c'est parti pour une heure de retournement de situation.
Et on va commencer par s'écouter le 113, un morceau bien old school avec les princes de la ville. Vas-y,
ouais,
balance Domino.
Et écoutez bien le couplet sur le HLM.
Dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner trois pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent jamais. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Les pompes du SMICA, y'a quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer. Tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine à cap de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Ces promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les beaux monuments à 100 bars, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils s'en foutent. Comme tout citoyen censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, je vois des frères menottés. Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets d'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, en gros on est tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val-de-Marne, pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances forcent la pénitence. T'as pareil de tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, des TIG. Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations.
Ouais mec, ouais mec. C'est ça notre vie, code 94 400 Vitry. Vitry, en banlieue à ses qualités et ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. Des scrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux,
vitriaux.
Même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville.
On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
On
est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux,
si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux,
si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Ok, toujours Vacarme en réunion, émission sur les Grésilles. Donc pour introduire cette première partie, on voulait vous faire un petit historique. T'es toujours là, Boutata?
Ouais, avec Domino, je suis bien là, je suis chaud là. Je fais bouillant dans le studio.
Ok, alors du coup on voulait réinscrire un peu l'histoire des HLM dans une histoire longue du logement social en mettant en lumière un peu trois points historiques. Du coup la première étape où vraiment le logement social proprement dit se développe, c'est après le 18e siècle, c'est la grande période du 19e où c'est la période du logement ouvrier, où du coup c'est surtout des philanthropes plutôt conservateurs, des patrons éclairés, etc. qui vont construire des cités ouvrières avec tout ce mouvement un peu de paternalisme. Et du coup, dès le début, ce qui nous paraît important de relever et qui sera évidemment tout le reste est dans la continuité de ça, c'est que à la fois la préoccupation, c'est la qualité de vie, l'hygiène, etc., la prise en compte de l'exode rural, mais c'est aussi évidemment en même temps le maintien de l'ordre, prévenir les émeutes, prévenir la lutte des classes, etc.
Donc, bah, c'est l'exemple tout bête des boulevards d'Haussmann, par exemple, c'est ça.
Ouais.
Enfin, c'est de niquer les petites rues pour éviter les révolutions, les émeutes.
Ouais, voilà, la construction des cités ouvrières, même parfois aux marges des villes, elle est dans la continuité de ce réaménagement urbain. Voilà, et du coup, ensuite, donc au départ, c'est surtout des initiatives totalement privées, l'État n'a rien à voir là-dedans, et c'est à la fin du 19e siècle, pendant la Troisième République, qu'il y a un début d'encadrement légal. Du coup, au début, c'est plutôt incitatif, quoi. L'État va plutôt favoriser les prêts pour les organismes privés, et c'est que dans les années 30 qu'il va vraiment se mettre lui-même à investir de l'argent, à construire, etc. Et du coup, le boom où vraiment l'État devient constructeur, organisateur, etc., c'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec la création du ministère de la Reconstruction. Du coup, après la Deuxième Guerre mondiale, la situation en France au niveau du logement, elle est catastrophique, étant donné les destructions, etc. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui va freiner la reprise économique. Du coup, c'est une des priorités principales, quoi. Et du coup, la situation est critique, et il y a cet appel de l'abbé Pierre, l'appel, le fameux appel de l'abbé Pierre qui est resté inscrit dans l'histoire, quoi, qui va aussi donner de la visibilité à cette problématique-là, quoi. Et du coup, ministère de la Reconstruction qui fait des plans, qui finance, etc. Mais ça va être aussi permis par l'industrialisation, pardon. Et du coup, de nouveaux procédés dans le bâtiment vont permettre qu'on passe d'une structure pavillonnaire à ces grands ensembles qu'on connaît, quoi. Du coup, il y a un peu un espèce de mélange qui permet de façonner la ville telle qu'on peut la voir aujourd'hui dans les banlieues. Et dès le départ, il y a, comme on y reviendra petit à petit dans l'émission, des négligences, parce qu'il y a des parce qu'il y a l'urgence de construire beaucoup pour régler ce problème-là, parce qu'il y a les problématiques de budget, etc., les logiques de profit, etc. Ce qui fait que les résultats sont assez aléatoires et bien loin de l'utopie style Le Corbusier, la Cité Radieuse et tout ça. En général, comme au Grésil, comme les bars, la première bar Biardon dont on va parler par la suite, c'est toujours un peu construit sur des formes appauvries par rapport aux standards
initiaux. C'est sûr, quoi. C'était complètement, quand tu vois les photos, donc c'était un R+12, ça veut dire un bâtiment sur 12 étages, et il n'y avait pas du tout ce qu'on pouvait retrouver dans Le Corbusier, c'est-à-dire des magasins en pied d'immeuble, enfin tout qui était pensé pour une vie communautaire dans l'immeuble, quoi. En gros, c'était juste répondre à des besoins qui étaient simples, de mettre des gens dans des bars, quoi, dans des immeubles, avec, il faut le préciser, la base du confort qui était à l'époque, mine de rien, pas négligeable, c'était juste d'avoir une toilette, l'eau courante, l'électricité et des douches, quoi. Donc ça, c'était déjà assez intéressant, et du coup, en l'occurrence, dans ces quartiers-là, au début des années 50, parce que le quartier des Grésilles, ça a été, enfin, la première barre est ouverte entre en 1953 ou 1954, et le but de ces
Bah, et ouais, c'est le but, c'est de d'éponger un peu tous les gens qui sont à la rue, notamment aux tanneries. Il y a plein de bidonvilles un peu partout, quoi. Et du coup, c'est à la fois ces personnels-là qui sont visés, mais aussi des gens qui sont dépourvus de logement à cause de la guerre. Et du coup, ça s'adresse surtout aux classes moyennes, quoi. On a cette image que la première période, c'est surtout les classes moyennes qui emménagent et en même temps qui assez vite vont être insatisfaites et vont chercher à partir le plus vite possible, quoi. Et du coup, dès les années 70, il y a un peu un scandale qui explose. On y reviendra tout à l'heure, mais dès les années 70, il y a déjà un gros constat d'échec au niveau des villes nouvelles et des grands ensembles. Et du coup, ce qui va amener à toute une transformation petit à petit des politiques, même si on continue de construire. Et ce qui nous amène à la dernière période que je voulais mettre en lumière, celle de plutôt la rénovation urbaine. Et du coup, la rénovation urbaine, c'est un peu genre la politique à la fois du nouveau départ et du déni. Voilà, on va chercher à tout reconstruire.
Ils ont vu qu'en fait, à un moment, le système architectural urbanistique qu'ils avaient mis en place au début des années 50 était plus viable au début des années 2000 et qu'ils sont arrivés, notamment avec les émeutes qui avaient eu lieu en région parisienne et tout ça, et qu'ils se sont dit, on va tout péter pour un peu tout refaire, quoi. Et du coup, il y a des exemples assez, significatifs qu'on retrouve. C'est par exemple quand tu vas au Grésy, il y a ces deux grandes routes là où dans lesquelles que les bus ou les taxis, les ambulanciers, mais aussi notamment les condés peuvent passer. Et le premier but, c'est de permettre aux gens de prendre plutôt les transports en commun pour laisser la voiture. Mais on le voit typiquement qu'en fait la plupart du temps c'est des voitures d'urgence ou la police qui passent pour aller plus vite d'un point A à un point B du quartier et qui servent donc à mieux cadrer, quoi. Et dans les années 2000, on voit ça, quoi. Donc ces bars qui tombent une par une. On va reparler aussi de ces projets de devoir de mémoire qui a eu lieu parce qu'ils se sont dit que pour reloger des gens, on pouvait pas les faire partir manu militari. Donc il y a eu plein de projets d'action culturelle, de liens sociaux avec des artistes, des sociologues qui ont été mis en place. Et ça a amené à créer un peu des éléments, des documents de propagande auprès des bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, en parlant de bailleurs sociaux, Domino, je pense qu'on peut balancer le sample de ce cher ami qui fait partie d'un conseil d'administration au sein d'un bailleur social dijonnais, qui est Viléo, et on va l'écouter.
En gros, il y a quatre bailleurs. Il y a Viléo, Sig Habitat, Orbitis, Dijon Habitat. Et Logivie qui commence à s'implanter. Ces quatre bailleurs-là couvrent Dijon et l'agglomération. Donc il peut y avoir du parc à Talan, il peut y avoir du parc à Satapou, il peut y avoir... Ils ont obligatoirement, ils s'agrandissent parce qu'ils ont des obligations vis-à-vis du Grand Dijon. Ils doivent construire tant de logements à l'année. Nous, par exemple, Vidéo, sur l'année 2016, on avait obligation de construire 150 logements. Et il n'y a pas autant de destruction que ça, quoi. Donc obligatoirement, ils s'agrandissent. Et ils sont dans l'obligation de s'agrandir, parce que c'est le Grand Dijon qui les oblige à s'agrandir, en leur donnant des terrains. Donc la ville saisit l'ensemble des bailleurs et leur disent, il y a un terrain tel endroit, rue Pierre-Curie, tant de mètres carrés, je vous propose de l'acquérir. Chaque bailleur fait une offre. Et le bailleur, il est obligé de répondre, parce qu'il sait qu'il a un objectif. Donc ils courent après les terrains, et principalement après les terrains du Grand Dijon et de la ville de Dijon. Donc ensuite, ils font la proposition à la ville de Dijon, et si c'est accepté, le conseil d'administration, parce que tout est acté en conseil d'administration, valide. On va prendre par exemple Vidéo en exemple, puisque je suis au conseil d'administration de Vidéo. Le bailleur social de Vidéo, c'est... Il y a des tas de petits actionnaires autour de la table, on est une quinzaine, il y a la caisse d'épargne, un représentant de la mairie, un représentant du Grand Dijon, il y a l'OJIBI, il y a... Donc Vidéo, au début, c'était le foyer dijonnais, une toute petite structure, 3000 et quelques logements. Ils ont fusionné avec l'OJILIA, de fait, ils ont fusionné et ça a fait 6500 logements. Donc l'office, il est créé depuis longtemps. Il y a un conseil d'administration où il y a des actionnaires qui s'en mettent, faut le dire, parfois plein les poches. Moi, je le dis très ouvertement. Les loyers, ça fait rentrer de l'argent. Ça fait une masse globale de ça fait un gros tas d'argent qui rentre avec les loyers. Là-dedans, de manière annuelle, on déduit les charges. On déduit le gros entretien et le petit entretien. C'est trois budgets. Et à côté de ça, une certaine part d'argent qui est réinvestie dans la construction, sur les fonds propres, sans aide de l'État ou du Grand Dijon, ou du Conseil régional. Et à côté de ça, il reste un petit peu d'argent où là, ben, les actionnaires, à un moment donné, ils disent, bon, ben, on aimerait bien un petit peu récupérer. On injecte de l'argent, on voudrait récupérer, quoi. Et ça, à Vilo, il redonne pas l'argent. Alors, est-ce que ça soit du fait que, ils ont peur que nous, enfin, tel est notre rôle. Nous, notre but, c'est pas que les actionnaires s'engraissent. C'est que ça construise et surtout que ça améliore déjà l'habitat existant. Parce que vous allez voir des appartements, des trucs, mais c'est la quatrième dimension, quoi. Non, mais sérieusement, c'est fou, quoi. C'est fou. Ils respectent pas toujours leurs obligations. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que on a à la tête de ces offices HLM des politiques. Donc tout est politique. Vous prenez Orvitis, Dugourd, président, monsieur Dugourd, hein, anciennement au conseil départemental, à la tête du conseil départemental, patati patata. Vous prenez Dijon Habitat, c'est Hamid El Hassouni, qui est adjoint à la mairie de Dijon. SIG Habitat, Laurent Grand-Guillaume. Je comprends pas qu'on puisse mettre des politiques à la tête de la présidence d'un office HLM. Je sais pas comment ils font. Être président d'un office HLM, je voudrais bien savoir comment les gars trouvent le temps de pouvoir gérer. Comment ces gars-là, avec tous les mandats qu'ils ont à côté, font pour gérer l'office HLM? Ça, c'est scandaleux. C'est pas normal qu'on ait des politiques à la tête des offices HLM. Rien que pour les terrains, tout ça, c'est quand même ambigu. C'est pas logique. Et ça, là-dessus, personne ne dit rien. C'est scandaleux. C'est inadmissible. À Vidéo, on a un président qui est bien instauré, hein, au MEDEF, hein, parce qu'ils mettent pas n'importe qui non plus, Monsieur Elias. Mais Monsieur Elias, quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est Vidéo, on est un des seuls offices où il n'y a pas de politique. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas peut-être quelques magouilles, hein, attention, hein. Et c'est là qu'on voit, de fait, on le voit nous tous les jours sur le terrain, c'est là qu'on voit les catas, la gestion. Mais c'est scandaleux. Ce qui se passe, mais c'est hallucinant, c'est la quatrième dimension. Et ensuite, ces gens-là vont dans les quartiers, ça sert d'épogne, tout le bordel, alors que les locataires subissent au quotidien. C'est la quatrième dimension. Il faut, je le dis très ouvertement, et les mots sont durs, il faut virer, je dis bien virer, hein, à coup de pied aux fesses, tous ces politiques qui sont à la tête des offices HLM. C'est pas normal. Ça engendre plein de problèmes.
Et ça, c'est dit. Au Grésy, effectivement, il y avait au début des années 50, ils ont construit 6 bars. Donc pour les citer, il y a Allée-Lochère, Biardon, Paulbure et Pierret. Donc ces 4-là, elles sont déjà tombées. Il reste, donc je vous invite d'ailleurs, auditeurs, à aller faire un tour au Grésy. Il reste encore un beau monument, une belle pustule au milieu du Tiercar qui s'appelle Réaumur, là, qui est en phase de déconstruction et du coup, elle va grignoter. Et la dernière qui va être réhabilitée, il reste Boutaric. Et notamment Réaumur, là, le relogement s'est passé tout récemment et au niveau des attributions de logements, il y a eu un peu des catastrophes ou des manières de faire complètement infectes. Par exemple, on peut citer l'exemple d'une mamie qui a 95 ans et donc elle s'est fait reloger dans une autre barre et en fait ils l'ont mise dans un endroit où elle doit descendre un escalier parce que quand tu rentres dans une coursive, en fait ces bâtiments étaient faits sous forme de coursive où tu rentres et puis tu as deux immeubles en haut, deux immeubles sur le côté et tu redescends et du coup tu en as deux en bas et elle en l'occurrence elle doit descendre en bas, donc autant dire c'est la galère pour elle qui a 95 ans, c'est un effort pas possible, ce qui fait qu'il fait le bailleur social ne facilite pas son ergonomie dans le bâtiment. Un autre exemple qui était aussi, c'était une personne handicapée, donc qui était en fauteuil roulant, qui est restée pratiquement pendant 4 ans, pareil, donc en bas de la coursive. Ça veut dire qu'elle devait monter sur les fesses tous les matins, ses escaliers pour pouvoir sortir. C'est le genre de scandales, en fait, qui sont trop peu mis à jour et qu'en fait, ils sont complètement oubliés. Quand je vous parle de phase B par rapport au Dijon Mag, c'est exactement ça qu'on veut mettre en valeur.
Du coup, on fait la transition avec le deuxième extrait. On continue notre plongée dans les rouages des bailleurs sociaux avec l'explication de ce que c'est une CAL, une commission d'attribution logement, et on va voir comment ça fonctionne.
On va prendre l'exemple des CAL, parce que c'est important d'en parler. Les CAL, c'est la commission d'attribution de logement. Tous les locataires d'office HLM sont passés par la CAL, leur dossier est passé par la CAL. La CAL, c'est assez incroyable. Moi, je suis à la CAL, représentant des locataires à la CAL de Villéo. Ensuite, il n'y a qu'un seul représentant de locataire. Son rôle, c'est de veiller à ce que la CAL reste souveraine. Pourquoi on donnerait à cette personne-là et pas à celle-ci? La première fois que j'ai participé à une CAL, j'ai halluciné. Autour de la CAL, il y a tous les responsables de secteur qui gèrent le patrimoine de Vidéo. C'est coupé par secteur. Donc, ils sont là, ils disent, moi, j'ai un appartement T2. j'ai 3 personnes dessus. 3 personnes, c'est la loi, c'est-à-dire qu'on doit mettre 3 dossiers dessus. Il y a un diaporama qui s'affiche avec les noms, prénoms des 3 personnes, nombre d'enfants, le revenu, simulation d'appel, tout ça. Et à côté de ça, il y a le président de la CAL qui appartient à Vidéo, parce que la CAL est censée être souveraine, je dis bien censée. Et là, il y a les représentants des mairies qui viennent. Il y a le représentant de la ville de Chenôve, il y a le représentant de la ville de Dijon. La ville de Dijon, très très active dans les cales, dans toutes les cales, très très active. Il y a une personne qui est dédiée à ça, qui s'occupe de toutes les cales, qui tourne sur toutes les cales. Et ils arrivent avec leur petit dossier. Alors quand c'est un dossier mairie, bah, il faut quand même... c'est plus compliqué de dire non. C'est bizarre. Bah, le risque, c'est qu'on se retrouve avec un terrain qui soit... où les autres bailleurs seront plus favorisés sur le sujet que nous. Et comme on a des obligations et que les terrains, quoi qu'on dise, sont extrêmement rares, sur Dijon, de plus en plus en tous les cas, eh ben, eux, ils sont dans l'obligation de suivre. Quand la mairie, elle arrive, c'est l'herbe du pétrole. La CAL, on dit qu'elle reste souveraine, mais je pense qu'elle ne l'est pas autant que ça. Actuellement, on vit des choses incroyables avec la ville de Beaune. Vidéo a du patrimoine à Beaune. La ville de Beaune irait presque jusqu'à choisir ses locataires. Ils imposent, ils disent « Non, nous, on veut ça ». Que font les mairies dans les cales? Pour qu'une cale fonctionne bien, les représentants de la mairie ne devraient pas être autour de la table pendant les cales. Je fais une demande de logement. Si je connais du monde, bien placé, on va dire, 99% de chance d'avoir mon logement dans les 2 mois. Hein. Je connais personne, 3 ans après, je peux toujours être dans le même logement. C'est ça qui pose problème. Pas forcément parce qu'ils ont des impayés. Parce qu'ils sont là et qu'ils estiment qu'ils ne sont pas prioritaires. Après, dossier normal, je dépose mon dossier dans le fichier. Je fais une demande de logement. Le responsable de secteur qui, lui, sait le patrimoine, ce qui est libre, ce qui va se libérer, tiens, j'ai un T2, j'ai un T4 ici, j'ai ça, va dans cette base de données, appelle les gens, leur dit, bah voilà, écoutez, j'ai un T2 à vous proposer, telle rue, est-ce que vous êtes intéressé? Oui, oui, je suis intéressé. Bon, ben, ils se mettent d'accord. Et là, c'est le responsable de secteur qui prépare tout le dossier, qui demande l'ensemble des documents, avis d'imposition, patati patata, et qui va présenter le dossier. Soit la mairie est au courant du dossier parce que, de fait, la mairie donne des dossiers en disant responsable de secteur, je parle pour Vilo, mais c'est pareil chez les autres, hein. Faut pas se voiler la face. Et là, le dossier, il est appuyé. Donc, il y a 2 circuits. Il y a le circuit normal où je fais ma demande de logement, je connais personne, et là, je vais attendre énormément de temps. Ou il y a le circuit rapide. Je connais du monde, je connais quelqu'un à la mairie de Dijon, connaît éventuellement un responsable de secteur sur vidéo. C'est pareil pour les autres bailleurs. Et là, le dossier, bon, bah bouge pas, je te mets dessus. Et roule les jeunesse. Même moi, en tant qu'administrateur, je le dis très ouvertement, il y a des dossiers que j'ai pu faire monter du jour au lendemain. Moi, j'ai aucun intérêt. J'achète pas de terrain et je construis pas dessus. Donc moi, je suis là pour défendre les intérêts des locataires. Donc je défends ma cause. Que je sois là, c'est tout à fait normal. C'est ce qui les oblige peut-être à être vigilants. Mais que la mairie soit là et qu'ils arrivent avec leur dossier... Parce que tout le monde se connaît là-dedans. Hein. Quand la mairie elle arrive, elle tape la bise à tout le monde. Hein. Moi, je n'y tape pas la bise. Reste neutre vis-à-vis de tout ça. Je vais prendre l'exemple d'une personne âgée. Son mari est décédé. Elle était dans un T4. Rien qu'avec sa retraite, elle ne pouvait pas payer le T4. Moi, j'ai saisi vidéo. J'ai dit, écoutez, il faut lui donner un T2. Tiens, il y a un logement là qui s'est libéré. Allez-y. Hop. 15 jours après, il est passé. Imaginez un petit représentant de locataire ce qu'il arrive à faire. Imaginez la mairie de Dijon qui, de fait, fournit les terrains. C'est fou. Donc je l'utilise, ce système-là. Je ne regrette pas d'avoir utilisé ce système-là pour la dame qui était toute seule et qui, à un moment donné, si on l'a laissée dans son T4, elle se serait retrouvée la corde au cou, quoi. Elle se serait endettée. Donc j'hésite pas à utiliser ce système-là. Quand j'ai une famille, quand j'ai une famille qui me saisit, qui me dit Monsieur Baudouin, moi je suis dans un T3, il nous faut un T5. Qui demandent un T5 depuis plus de 3 ans. On ne leur donne pas, on ne sait pas pourquoi. On leur répond, on n'en a pas. Mais il y en a des T5. Bon, bah, moi j'ai téléphoné, hop, maintenant ils sont dans un T5. Ils sont bien installés. Mais il n'empêche que ça rend service à des locataires qui, dans la base de données, eux, ont miséré et attendent des logements depuis je ne sais combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'agis pas pour les salariés de la mairie, ou pour les connaissances de la mairie. C'est là qu'est toute la différence. Mais c'est la triste réalité de ce qui se passe dans les cales. Ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionne comme ça partout en France. C'est l'électorat. Je vous donne un exemple. La dame que j'ai fait loger dans un T2 a reçu un courrier de Madame Popard dans la foulée en lui disant « Chère Madame, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai appuyé votre dossier. » Alors que c'est même pas elle qui l'avait appuyé, c'était moi. Parce qu'il récupère les noms, la représentante de la mairie récupère les noms de ceux qui ont un logement. Ensuite, ils envoient un courrier au locataire en disant « Nous avons fait ce qu'il fallait pour que vous ayez un... » C'est récupérer de l'électorat. On se sert des cales pour se faire un certain électorat. D'où le fait que je dis « Les représentants des mairies ne doivent pas être autour de la table. » Je persiste et signe. C'est ça la cale. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans l'obligation, nous en cale, d'argumenter un refus. Le locataire qui se voit refuser un logement a la possibilité de saisir le président de la CAL, de la commission d'attribution de logement, et de lui dire « Vous m'avez refusé, argumentez-moi. Pourquoi ? Pourquoi vous m'avez refusé le logement ?» Et là, le président est obligé de... Les locataires ne le font pas assez, ça. Et ils devraient le faire plus souvent. Moi, je pense qu'à chaque refus, ça devrait être... ils devraient saisir le président de la CAL et demander pourquoi ça a été refusé. Ce qui mettrait la pression indirectement sur les... sur les cales, tous autant qu'on est autour de la table, ça nous mettrait un peu plus la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les dossiers arrivent, on passe les diapos, on se met d'accord, pop, pop, ça défile 15, 20 ou 12 demandes de logement, et puis voilà, quoi. Dans le...
Ma famille, mes amis, crazy, 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 hein. Je suis né là où je vis, des frangins, des frangines, crazy, 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 hein. Et l'on cherche Champollion, Berthelot et Biarritz, crazy, 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 hein. Castelnau et Rugeor, c'est pas vraiment crazy. On a poussé ensemble, nos idées se ressemblent. Tous les matins, on se rassemble, on se donne rendez-vous au sens. Ça boit le cap, ça t'hase, ça roule le premier pilon. Dès le matin, ça fait les coups, ça fait les premiers bilans. On bouge jamais vers midi, on a roulé trois pilons. Tout le monde est trop speed ici, personne y va tranquillement. Refourche des barques, des meuches, des calmants. Fais ça normal comme si c'était légalement. On joue à cache-cache, évite la regarder des darons. J'y ton cache dans la cage pour les carottes, tu connais le daron. Sors le ballon, on se fait des passes pendant que les voitures passent. Même si les keufs passent, faut qu'ils se cassent avant que leur carreau se casse. C'est pareil à chacune de leurs descentes. Plus personne. C'est pareil de janvier à décembre. C'est pas pareil quand personne est sobre, quand personne raisonne.
Crazy, 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 hein. C'est ma ville, c'est ma vie, ma famille, mes amis. Crazy, 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 hein. Je suis né là où je vis, des frangins, des frangines. Crazy, 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 hein. C'est Longer, Champollion, Berthelot et Biarritz. Crazy, 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 hein. Castelnau et Rugeor, c'est vraiment crazy.
Avec Coco, The Bomb Mike, tous les jours collés sur nos bikes. J'y alloumon un ou ailleurs, tous les jours ça traque. Des trucs de hmac, posé tranquille avec Rat. Voir le grand sourire du petit frère lâche. Fumer 10 bif avec Yashar. Vanner avec Ali Migdad. Faire des films avec moi Elbaz. Sous le marché avec Rich Backpack. Dédicace à Jao Kayak. Seul parmi nous qu'a jamais ailleurs. L'Akhtar Zaza est à peine Tony.
C'est Grazy.
Ghetto, qu'est-ce qu'il y a, crabe, pas de poste. Dans le texte, nos écrits en présent, dès qu'on est tout gosse.
Crazy, 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 hein. C'est ma ville, c'est ma vie, ma famille, mes amis. Crazy, 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 hein. Je suis né là où je vis, des frangins, des frangines. Crazy, 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 hein. C'est Longer, Champollion, Berthelot et Biarritz. Crazy, 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 hein. Castelnau et Rugeor, c'est vraiment crazy.
Nous, groupe entreprise dijonnaise qui sommes des constructeurs d'habitations, de logements, bah, c'est sûr que c'est toujours impressionnant de voir des immeubles s'effondrer comme ça, mais d'un autre côté, c'est promoteur pour nous, puisque c'est signe de construction, de développement dans le quartier dijonnais, particulièrement Grazy, mais également dans tout le bassin dijonnais.
C'est impressionnant.
Alors là, j'adore ce sample. Il me fait tellement rire. Ce que ça traduit, c'est ok, on va palper du blé, quoi. On va s'en mettre plein les poches, quoi. Ça sent, enfin, c'est ce discours où le gars, en plus, il a aucun gêne à le dire, quoi. C'est voilà, on pète du béton et puis on va se faire du blé, hein, ça va être bien. Et justement, à partir de toute destruction, ça demande aussi peut-être de réfléchir sur comment prendre en compte que les gens, bah, il faut faire un peu de social ou un peu d'humaniser leur relogement. Et du coup, justement, dans la première barre qui est tombée, c'était les Lochers. Donc, c'était au tout début des années 2000. Et il y avait eu un acte qu'on a essayé de rechercher dans le quartier, qu'on a vaguement entendu parler, mais d'une personne qui avait balancé un bidet sur un gardien de l'OPAC, donc ex-Dijon Habitat. Et du coup, à partir de là, ils ont commencé un peu à penser à la suite. De se dire bah, on va peut-être réfléchir sur comment mettre en valeur le fait que les gens partent, et du coup à chaque destruction ils pensent à des moyens de donc plutôt autour avec des artistes, de l'action culturelle, des projets pour essayer de les mettre en valeur. Donc en l'occurrence à Réaumur, de tout dernièrement l'an dernier, une vidéaste a filmé les derniers habitants qui habitaient dans la barre d'immeuble. On l'a notamment rencontré et on a vu que ça avait été assez difficile pour elle de mettre en place ce film, qui est d'ailleurs toujours pas sorti parce que Dijon Habitat ne lui permet pas. Et donc il y a un film qui a été sorti dessus. À Greuze, ils ont fait en 2004-2005, ils ont fait différentes réunions avec des habitants. Et pareil, de mon petit domino, j'ai envie de te faire une citation qui est en fait la quatrième de couverture de ce bouquin. Alors c'est incroyable. Donc c'est un habitant qui dit ça. Il dit d'habiter ce quartier, on est marqué. Si ça ne change pas, on va tomber malade. Soit on abat la cité, soit on se retrouve tous à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, au début de ce bouquin, il y a plein de photos de Greuze, mais en mode ultra ghetto, des sièges dehors, des déchets.
Ouais, genre, c'est un tout petit opuscule, un reportage photo en fait, avec une espèce d'esthétisation de la destruction. Et il y a quelques pauvres citations qui ont été glanées ici et là. Et c'est vraiment la caricature du travail de mémoire qui sert juste à valider le discours du réaménageur.
C'est ça, c'est
quoi.
Comment en fait il crée un discours officiel sur le passé et qu'on fait rentrer dans la tête des gens que, en fait, leur barre d'immeuble. Elle se pète la gueule, que la pauvreté arrive et tout ça, mais c'est que derrière ça, il y a quand même un peu une volonté politique de laisser en fait ces bâtiments mourir pour ensuite laisser les gens partir par eux-mêmes, parce que les questions de relogement sont toujours très compliquées. Il faut se mettre dans la place d'une personne qui a grandi dans une barre d'immeuble pendant 40 ans, 50 ans, enfin qui a passé sa vie pour la reloger. Parfois, on voit pas mal d'habitations, d'immeubles, mais rien ne nous convient, c'est normal, c'est son accroche. Et du coup, il y a tout ce discours en fait officiel qui vient souvent à être appuyé par ces projets-là de photos, de vidéos. Et du coup, c'est assez catastrophique. Par exemple, il y a un autre, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, mon domino, c'est Billardon. Donc il y a un bouquin qui a été écrit dessus, tu vas nous faire une lecture tout à l'heure. Et puis aussi en termes de réaménagement, on peut aussi parler de la question des commerçants, où notamment sur la place du marché des Grésies, il y a en fait tous les anciens boui-boui. Donc vous pouvez trouver un petit café associatif, un petit restaurant, il y a une espèce d'agence de voyage, il y a une boucherie, il y a des petits boui-boui de vente où on trouve de tout. Et en fait, à long terme, cette place a voué à disparaître. Il y a déjà l'ancienne place du marché, donc les anciennes halles ont été décalées sur une nouvelle, qu'il faut le dire avec des adjectifs assez crus, c'est que c'est devenu complètement insipide et sans vie, à part pendant les deux jours de marché. Mais après, voilà, ils ont construit un espèce de lieu ouvert, avec du béton partout, et donc très peu de... Ils ont mis quelques arbres, voilà. Et donc sur cette place, voilà, il y a pas beaucoup de vie, quoi. Et donc en l'occurrence, les commerçants qui habitent, enfin qui sont là depuis quelques années, se voient de proposer des sommes dérisoires par rapport à leurs locaux où ils sont propriétaires. Et du coup, ils sont en procès. Enfin, c'est même physiquement, c'est minant pour eux, quoi. Et du coup, justement, quand je parlais du bouquin de Billardon, Domino, est-ce que tu peux nous lire ce passage sur cette commerçante et sa manière de se faire des potes dans le quartier?
Moi, je suis arrivé là. Les Maghrébins, je ne connaissais pas trop. Parce que je suis né à la campagne. J'ai été aide-soignante à domicile pendant 15 ans, j'habitais à Dijon. Mais à la campagne, des Maghrébins, on n'en voit pas. Le henné, les gens avec la djellaba, on ne connaît pas. Je savais ce que c'était, puisque j'avais adopté un petit algérien. Mais c'est des trucs qu'on ne connaît pas trop, les coutumes, comment ils vivent. Mais lorsque je me suis installé à Billardon, ça a bien collé avec les jeunes. Au départ, il y en a quelques-uns qui sont venus. Ils m'ont piqué mon sac à main, mon paquet de cigarettes, mon porte-monnaie. Et puis, j'avais une grosse manivelle. J'avais un rideau de fer, en fait. À l'époque, c'était avec la manivelle. Donc, j'ai pris ma grosse manivelle et je suis arrivé en courant dans le grand hall. Billardon, vous voyez comment c'est fichu. Je suis arrivé et j'ai dit « Il y en a un qui se pointe, je lui éclate la tête. Vous me rendez le sac. J'ai les papiers de mes enfants dedans. Tu me piques le reste si tu veux, mais tu me rends les papiers. » Ils étaient 10. Ils sont revenus une demi-heure plus tard et ils m'ont rendu le sac. Ils avaient piqué le fric, mais ils m'ont rendu le sac. Donc après, je suis allé porter plainte. Comme je dépends d'une association, je suis obligé de le faire. J'y suis allé et j'ai demandé à passer au service canon pour voir un peu la tête des gamins. Je voulais voir un peu qui était fiché. Ils avaient 13-15 ans à l'époque et ils étaient déjà fichés depuis 3 ou 4 ans. Je les ai tous reconnus, mais je n'ai rien dit à la police. Par contre, j'ai revu les gamins quelques jours après et je leur ai dit « Bande de petits branleurs, je suis passé au service canon, j'ai vos noms et adresses. » Ce n'était pas vrai. « Et le moindre souci, je monte chez tes parents et je te casse la tête. » Tu aurais vu les gamins, ils étaient soufflés. Et du coup, ça a marché comme ça. En fait, je suis devenu ami avec tout le monde, les jeunes, etc. Ils venaient à la boutique et ils ne m'ont plus jamais embêté. J'étais souvent invité chez les gens pour manger le couscous, le tagine, boire le thé. J'ai vraiment passé un peu mon temps à ça, à vivre avec les gens. Et puis, j'ai été la secrétaire de l'association des commerçants des Grésilles. Je me suis beaucoup investi sur le quartier. J'ai pas mal de copines qui sont assistantes sociales, donc on a beaucoup travaillé ensemble. C'était vraiment intéressant. Il y avait ceux qui étaient en prison. Moi, je leur écrivais. Peu importe ce qu'ils avaient fait, je ne voulais même pas le savoir. Je leur écrivais des petites cartes, etc. Ils étaient suffoqués. Du coup, j'étais ami avec tout le monde, même avec les plus malfrats. Et ça, c'était génial au niveau du quartier, parce que ça cartonnait beaucoup à l'époque. Il y a eu beaucoup de braquages, le bureau de tabac. Moi, j'étais juste à côté. Il était braqué régulièrement. L'Arlette, elle pétait les câbles. Après, elle a été un peu plus tranquille, puisque moi, j'étais à côté. Un jour, ils sont passés par ma boutique. Ils ont quand même cassé la porte de derrière. Ils ont tout fracassé. J'ai été appelé à 7h du matin par la police. En fait, c'était pour passer au bureau de tabac. J'avais du Lacoste, j'avais du Nike, j'avais des baskets. Ils m'ont rien pris. Les pots en porcelaine ont été délicatement reposés. Ils les ont déplacés et ils les ont remis. C'est tout. J'y croyais pas. Quand la police est venue, ils m'ont demandé « Qu'est-ce qu'ils vous ont pris ?» Je leur ai dit « Oh, ils ont été gentils, ils ont rien pris. Oh, ils ont même remis les pots en porcelaine. » Alors là, la police, ils étaient sciés. Ils ont dit « On n'a jamais vu ça. » Mais c'était génial. Je crois qu'au départ, il faut avoir du mordant.
Génial, c'est énorme. Alors cette lecture, elle est tirée d'un bouquin qui a été fait sur le témoignage et la vie des habitants de Billardon. Sur YouTube, vous trouverez aussi une vidéo où Daniel Fernandez fait une chanson à leur honneur. Donc on a quand même bien déliré avec Domino quand on a commencé à le lire, parce qu'ils ont fait venir un pseudo-sociologue. Il y a qui d'autre là-dedans, Domino ?
Le bouquin, il y a deux parties, si on peut dire. Il est préfacé par Rebsamen, il ne faut pas l'oublier, puis par un imbécile qui se réclame du CNRS, un sociologue professionnel, mais qui dit toutes les conneries qu'on peut imaginer sur les banlieues. Et du coup, il y a deux parties. Il y a une partie un peu historique, mais qui tourne en rond, qui est une partie historique purement du point de vue du pouvoir, quoi, des aménageurs et du bien public. Et une deuxième partie où ils ont quand même réussi à faire quelques entretiens. Et voilà, c'est pas du tout analysé. C'est vraiment un travail ridicule qui, évidemment, sert juste à passer un peu de pommade et à valider le discours dominant qui consiste à justifier les destructions parce que ça va de mal en pis, quoi. Et c'est pour ça qu'on voulait lire cet extrait, c'est parce que il traduisait d'autres choses, quoi. Voilà, des personnes qui ont un peu de tempérament et qui osent se confronter avec les problèmes réels, voilà, elles arrivent à attirer autre chose que juste la dégradation des conditions de vie, quoi.
Et puis si on l'a retenu aussi, c'est notamment ce rapport dont elle avait, avec la police, où elle attendait pas à ce que la flicaille vienne lui donner un coup de main, mais qu'elle règle ses problèmes par elle-même. Et donc cette façon populaire de se dire que les soucis, c'est aussi comme ça qu'ils peuvent se régler. Et en l'occurrence, quand je parlais des voies de bus qui permettent au Condé de passer d'un point A à un point B en moins de 2 minutes, on le ressent en fait, ce climat de tension policière et aussi de maintenue d'ordre social avec des descentes gratuites, de la provocation, et qui permet juste à rappeler aux jeunes qui traînent en fait, qui sont parfois paumés, déscolarisés, qui forcément, quand dans certains quartiers on voit que les éduques de rue, il y en a de moins en moins, il y a moins en moins de repères pour eux, et puis du coup tout ce qu'on leur envoie comme sympathie, c'est des flics dans la gueule. Ouais, Domino.
C'est ça, je pense que ce qu'on voudrait dire, et ce qui pourrait être l'ouverture pour des prochaines émissions, c'est se poser la question, contrairement à ce discours dominant, c'est comment justement cette ambiance de dégradation, elle est construite, particulièrement à partir des années 80 et un peu de la deuxième période d'habitation et tout ça, avec toutes les familles immigrées qui arrivent, comment on passe sous le discours un peu raciste et un peu facile qui consiste à tout remettre sur la faute des jeunes, etc. Et qu'est-ce que ça a été l'attitude des bailleurs, comment ils se sont mis à gérer, comment ils ont abandonné la gestion de ces immeubles-là, etc. Et comment on retourne un petit peu tout ça, quoi.
Mais c'est ça qui me choque, hein, quand je vais tchatcher un peu avec des, surtout avec la vieille génération, quoi, donc les gens qui ont un peu plus de 60 ans, c'est qu'il y a forcément un moment où t'entends cette phrase « je ne suis pas raciste, mais ce truc où, en gros, le quartier des Grésies, donc pour rappeler, à un moment, il y avait eu des gardiens au pied de chaque immeuble qui avaient des amendes qui étaient données si tu mettais ton tapis sur ton sur ta barrière, qu'il fallait pas marcher sur la pelouse. Ce climat-là, en fait, où qui était d'un certain standing, parce que quand on a dans les années 50, les Grésies, c'était vraiment la classe, tu vois. Et au fur et à mesure, les conditions se sont dégradées. Et en fait, c'est les gens, ils assimilent ça directement à l'arrivée de nouvelles populations migratoires. Moi, à mon avis, c'est simplement qu'à un moment, on a mis dans la tête de ces gens un faux discours, ou une fausse similarité, mais qui est temporelle, quoi. Ils ont dit, à un moment, les Grésies, peut-être moins une priorité pour eux. Du coup, ils ont laissé les bâtiments, donc ils ont enlevé les gardiens, ils ont mis moins de bif dedans. Et puis, du coup, aussi, c'est le moment où t'as des populations immigrées qui sont venues. Et puis, du coup, le postulat et le lien se fait directement. Et du coup, ça me fait halluciner quand je discute avec ces vieux qui, pourtant, vivent en très bonne communion maintenant, mais dès que tu creuses un peu, ils cherchent la faute à quelqu'un. Et en fait, pour moi, la faute, elle est directement liée au bailleur social, quoi. Domino, ça te dit qu'on s'écoute un petit son là pour passer sur la dernière partie?
Ouais, donc, on va faire une petite transition avec les conditions de vie et la conflictualité avec
les béarriers noirs,
comme il se doit. Ok, vous êtes bien sur Vacarme en Réunion, émission sur le raménagement des Grésies. On coupe un peu brusquement les berruriers noirs. Voilà, du coup, dernière partie de l'émission, un peu plus sur la conflictualité au sein des HLM et par rapport à ce qu'on a dit et notre tentative un peu de renverser ce discours sécuritaire et raciste. Je voulais me faire l'écho un peu d'une discussion que j'ai eue avec une personne qui habite dans le quartier des Grésies. Voilà, du coup, ce que je voulais dire, c'est... En gros, ce climat de dégradation des conditions de vie, il a aussi une autre manière de s'énoncer. qui serait pas accusatoire, quoi, et qui a plutôt à voir avec qu'est-ce que c'est la réalité des gens. Et cette personne-là, elle me disait, voilà, quand j'étais jeune, je lui demandais pourquoi est-ce qu'elle était si nostalgique de sa jeunesse. Elle me disait, mais tu vois, on était tous une famille, on était soudés, etc. Et ça, c'était parce qu'on avait grandi ensemble, qu'on avait vécu au même endroit pendant très longtemps, etc. Et je me suis dit, en fait, voilà, il y a une piste un peu pour essayer de comprendre comment, à un moment, ces bâtiments-là, ils deviennent un peu le foyer de plein de tensions, de points de rumeurs, de ragots, etc. C'est que les gens partent, reviennent, etc. Et qu'il n'y a plus cette forme de continuité un peu où les gens grandissent ensemble et ces phénomènes de solidarité-là, ils sont directement attaqués par les urbanistes qui ensuite viennent rejeter la faute sur les familles elles-mêmes, quoi. Et du coup, la question que j'avais envie de me poser, c'est que aussi une autre manière de voir ça, c'est que l'échec de ces bâtiments-là, ça a été que du point de vue du pouvoir, c'est devenu un peu des angles morts, quoi, où il y avait toute une vie, toute une solidarité, mais aussi toute une économie parallèle, toute une illégalité qui leur échappait, quoi. Et du coup, en fait, la question, c'est est-ce que c'est pas toujours comme ça? Est-ce que l'illégalité et la solidarité, elles vont pas dans ces endroits-là de pair comme dans beaucoup d'autres endroits?
Moi, ce que aussi, c'est quoi ça me fait penser quand on parle de forme urbanistique, c'est que mine de rien, j'aimais bien ces formes d'architecture où, par exemple, tu prenais les R+9, R+12, donc les vieilles barres, l'ancienne, qui étaient certes très petits, les gens sont les uns sur les autres avec des murs très frêles, mais voilà, à l'époque, on pensait à l'espace et du coup, au pied de chaque immeuble, t'avais des cours immenses sur lesquels les enfants pouvaient jouer, les parents surveillaient d'en haut. Maintenant, quand tu revois ce qui se fait, notamment sur la plage du marché des Grésy, c'est typiquement que des immeubles de bas d'étage avec des barrières, 15 digicodes à passer avant de rentrer chez toi, et que ça amène aussi à se mettre seul, quoi, et à rester. Ça promeut l'individualité, quoi. Et du coup, je comprends tout à fait ce que voulait dire cette habitante, où aussi c'était très spontané de pouvoir sortir, d'être en sécurité au pied de son immeuble. Et du coup, il y a aussi la question de l'espace et les bailleurs sociaux qui en fait essayent de construire le plus possible sur des zones de plus en plus restreintes, quoi. Et donc évidemment t'as des parcs et des choses comme ça, mais c'est une démarche d'aller dans un parc. Ce qui était assez agréable, c'est de voir ces barres d'immeubles avec, voilà, je leur dis, ces grandes cours et des jeux qu'il y avait dessus, et puis qui ont été élevés au fur et à mesure des années pour des questions de normes.
Voilà, du coup, comme vous l'avez compris, on essaye de renverser la chose et de mettre plutôt du côté du bailleur la dégradation des conditions de vie. Et c'est pour ça qu'on voulait vous passer un peu le dernier extrait de notre entretien avec le représentant des locataires à Viléo, qui illustre bien comment le bailleur, c'est pas un organisme philanthropique qui vous loge à bon compte par gentillesse, mais un agent économique avant tout, et également un agent de l'ordre. Et du coup, il y a une petite partie que j'ai pas mis parce que ça va être trop long, mais où il explique toute la chaîne d'information qui va des médiateurs jusqu'aux responsables de secteur, jusqu'aux bailleurs, jusqu'à la préfecture, et comment tous ces gens-là gèrent ensemble, en fait, les points de deal, toutes ces problématiques-là sur le quartier, quoi.
Mais c'est quelque chose aussi qu'on pourra creuser dans une prochaine émission, c'est de savoir comment est l'arborescence au sein d'un bailleur social et comment ça fonctionne. Et du coup, je vais laisser parler notre ami.
Ouais, c'est parti pour le dernier extrait.
Dans le fonctionnement, déjà, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de budget. Il n'y a pas assez de salariés. Il n'y a pas assez de responsables de secteur. Je vais prendre juste un exemple. Viléo, c'est 88 salariés. Je prends Viléo parce que j'y suis. 88 salariés pour gérer plus de 6500 logements. Donc, il va falloir m'expliquer comment ils font, quoi. Et ça engendre des tas de soucis. Mais je veux dire, quand on voit, nous, les dossiers qui passent, dossiers individuels, voire collectifs, il n'y a pas de gestion. Ils empochent les loyers. Ça, là-dessus, ils font pas de cadeaux. Hein. Vous allez leur écrire pour un problème dans les communs, ils vont mettre 6 mois à vous répondre. Hein. Demain, vous avez 3 jours de retard pour payer votre loyer, le premier commandé, il part. Hein. Il est déjà parti. Hein. Boum, boum, allez hop. La première chose qu'engage le locataire vis-à-vis de bailleur, chose que rappelle bien le bailleur, et c'est la priorité du bailleur, c'est de payer le loyer. Tu ne payes pas ton loyer, tu ne respectes pas ton engagement, là, ils mettent la machine en route. Après, il y a ce qu'on appelle les fameux règlements intérieurs de résidence. Dans le temps, on avait des gardiens d'immeubles qui pouvaient mettre des amendes. Le bailleur, il n'a pas de recours. Le seul recours qu'il a, c'est de vous envoyer des courriers. Il a énormément de recours, et là, il peut faire très très mal quand il y a un impayé. Et ça, c'est catastrophique. Parce que quand la machine se met en route, pour l'arrêter, c'est extrêmement compliqué. Je paye pas mon loyer pendant un mois. On va m'envoyer une lettre, un recommandé avec accusé réception. Deuxième lettre, troisième lettre. Dans la foulée, le bailleur saisit la caisse d'allocation familiale pour dire tel locataire ne paye plus son loyer, il coupe l'APL. Donc, ce qui engendre encore la dette plus forte. Il coupe l'APL jusqu'à qu'un plan de recouvrement soit mis en place. Le fait de mettre en place un plan de recouvrement, là, l'APL repart. Et il reverse des arriérés. Là, là-dessus, le bailleur, il a des recours qui sont assez forts et qui font très très mal, quoi. Quand le locataire est dans des difficultés financières, qu'il n'arrive pas à payer son loyer, c'est déjà dur, parce qu'on reçoit des lettres de menace, très clairement, hein. Moi, j'avais reçu, pour voir comment étaient les courriers de relance, j'avais fait exprès de payer mon loyer en retard. En tant qu'administrateur, il faut le faire quand même. J'avais reçu un courrier en me disant qu'on allait me saisir ma télé, ma voiture. Aujourd'hui, ils ont changé ça. Parce que moi, j'ai saisi le conseil d'administration en disant que c'était totalement illégal, quoi, ce qu'ils faisaient. On ne peut pas dire aux locataires, vous n'avez pas payé votre loyer, on va vous prendre votre voiture, on va vous prendre votre télé. Non, mais c'est la quatrième dimension. Ils se permettent des choses qui sont quand même assez hallucinantes, quoi. Ce qui est dangereux, c'est que ils vont très très vite. Vidéo a mis en place un service recouvrement. Ils attendent plus 3 mois pour intervenir comme c'était il y a quelques années en arrière. Maintenant, c'est dès qu'il y a un impayé, c'est automatique, hein. C'est un ordinateur impayé, telle date, c'est pas payé. Le courrier part dans la foulée. C'est une entreprise, il faut que ça rentre. Ce qui revient souvent, c'est des conflits sur les charges. Je vais prendre juste un exemple. On a une locataire qui, chaque été, on ne sait pas pourquoi, des tas de fourmis, mais des fourmis partout. Elle demande l'intervention. Elle demande une intervention du bailleur. Et là, le bailleur lui dit, mais c'est à vous de payer. La désinsectisation, c'est à vous de payer. C'est pas la locataire de payer la désinsectisation. C'est moite-moite. C'est ce que disent des textes. Combien de locataires va contrôler ses charges? Pas beaucoup. Il y a la régularisation annuelle. Le locataire avance sur son loyer tous les mois des charges. Ensuite vient la régularisation annuelle. Là, on dit au locataire, vous avez un mois pour venir dans nos locaux contrôler les charges. Alors déjà, quand le locataire il arrive, on lui sort des tas de classeurs avec des factures, tout est éteint. Le locataire, il n'y connaît rien. Les trois quarts des conflits, ça vient des charges. C'est hallucinant. Le bailleur, à partir du moment où les charges ne sont pas contrôlées, se permet de facturer tout et n'importe quoi. Il se permet de facturer au locataire toutes les dégradations. J'enlève un graffiti, je fais intervenir une société, nettoyage, ils vont facturer au locataire. C'est de la dégradation. Tout ce qui est dégradation n'a pas à être facturé. C'est, voilà. Et quand les gens se rendent compte de ça, il y a conflit. Ou le conflit, c'est, il y a des travaux. Il y a beaucoup de conflits aussi sur les travaux. Il y a des choses qui sont cassées et le bailleur ne fait pas. Parce qu'il a un budget qui est limité dans l'entretien. Donc le bailleur, il fait pas. Et on dit aux locataires, c'est à vous de faire. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, ça engendre des conflits. On a des locataires qui posent des questions, qui écrivent, ils n'ont pas de réponse. Moi, j'ai actuellement des dossiers que je suis en train de traiter. J'ai des locataires qui ont saisible à 3 mois de ça vidéo. Ils n'ont toujours pas eu de réponse à leur demande.
Et la dernière fois, tu as raconté l'histoire d'une dame là.
Ouais, expulsion avec les forces de l'ordre, hein, quand même. Hein, donc c'est quand même pas rien. La personne ne peut plus payer son loyer, c'est compliqué. Et une, deux, trois courriers, hop, on saisit le tribunal, le huissier, tout ça, et peut pas expulser avec les forces de l'ordre. Là, Quetigny, c'est assez particulier quand même, cette affaire-là, parce qu'on a une locataire qui est arrivée en France, qui a obtenu un visa. Elle travaillait, elle est très bien insérée. Les enfants vont à l'école. Et du jour au lendemain, on lui dit, madame, terminé, vous rentrez chez vous. Vous quittez la France. Donc, de fait, elle ne peut plus travailler. Elle ne peut plus payer son loyer. Vidéo, il y aura une rencontre qui sera organisée là prochainement. Ils n'auront pas le choix de toute manière. Et Vidéo, tout de suite, dit, oui, mais monsieur Baudouin, il y a des impayés. Les impayés ont été, sont suite à quoi ? Sigabita a passé des accords avec SOS Refoulement. C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de procédure d'expulsion. En attendant de voir la position de la préfecture, si ça se confirme ou pas. C'est une belle démarche de la part de Sigabita et c'est ce qu'on attend de Vidéo, qu'ils aient cette démarche-là, de dire, vous vous retrouvez en difficulté, c'est pas de votre faute. À un moment donné, il faut qu'on arrête de voir que le pognon. Il faut qu'on prenne en compte la souffrance de la personne derrière. On s'occupe pas de ça. Le pognon, vous payez pas votre loyer. On vous vire, quoi. Mais c'est fou, il y a des enfants. On a je ne sais combien de logements vacants qui leur coûtent un œil. Et ça, ils la laissent, la vacance. Ils ne la traitent pas. Hein. Tous les mois, on a tant de logements vacants sur le parc. On s'en occupe pas de ça. Et à côté de ça, on va s'occuper d'une femme qui, hélas, a perdu son travail à cause de la préfecture. Faut bien le dire. Et on va s'acharner sur cette dame-là. Il faut qu'on arrête les conneries. À un moment donné, il faut qu'on soit logique, quoi. Nanana.
Voilà, c'est la fin de Vacarme en Réunion. On était très heureux avec Boutata de faire cette émission qui nous a filé la pêche. Et j'espère qu'elle servira à des gens dans le futur. On voulait juste finir en disant que on espère vous retrouver en septembre pour de nouveaux épisodes dans cette lignée-là. Et principalement, on va essayer d'aller à la rencontre de gens, justement, de locataires qui s'organisent et qui se laissent pas écraser par leur bailleur.
C'est ça, qu'on la niaque et qui veulent aller de l'avant et du coup se mettre en lien et essayer d'aller tout défoncer et de reprendre un peu le pouvoir, quoi. Donc ça fera l'occasion d'une nouvelle émission avec Domino. Et, ouais.
Et comme ça, Vacarme en Réunion rejoindra son rôle fondamental qui est de pas être juste une émission de radio, mais une pièce dans un mouvement, comme on dit dans le jingle. Voilà.
Bon, bah écoute, on va se quitter sur Daniel Waro, sur le morceau Batter Cité. Voilà, pour finir en douceur.
Ouais.
Bonne fin de dimanche
salut
à tous.
Tata, vous pouvez nous retrouver sur tvnr.noblogs.org et tous les dimanches à 16h. Ciao, ciao.
Ciao.
Ça y est, les bandits coulent à terre, somme toute mon rayonnelleté.